Radio G 101.5 FM.
Vous déambulez dans la rue à la recherche d'une de vos addictions. Soudain, une lumière s'allume et irradie d'une fenêtre dans une ruelle obscure. Au premier plan, une silhouette de femme, cigarette ou vaporette au bec. C'est fou quand vous y pensez, la vaporette dans un film noir. Au second plan, un homme avec un Loden et un Stetson. Scène que l'on ne voit que dans le 7e art. Vous êtes en contre-plongée, à contre-jour, mais pas à contre-emploi. Sur cette dernière pensée, vous arrivez enfin chez vous. Vous jetez votre casquette d'un geste alerte sur un perroquet. Vous filez dans la cuisine, vous faire un perroquet différent. Vous vous installez confortablement. Vous tournez le bouton du poste de radio, grésillement, et puis soudain. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM et vos habituels complices sont avec vous. Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé Julien. Bonsoir les amis.
Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre. Et maintenant, générique maestro.
Titre en caractère gras, 1 000 milliards de dollars.
Ce dossier, monsieur Kerjean, c'est l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un gigantesque empire économique qui s'appelle GTI.
Le président de GTI. C'est un cerveau redoutable et féroce en affaires.
Benoît Lambert est un obstiné.
Nous avons acheté Benoît Lambert.
Cette poignée de main vaut 1 750 millions.
À ce prix-là, ce n'est plus un achat, c'est ce qu'on appelle un pot de vin.
Je suis un rescapé de la plus impitoyable des guerres, la guerre économique, où les généraux sont en costume rayé de bonne coupe et leur arme, un attaché-caisse de bon goût.
Un gros scandale en perspective.
Oui, si tout va bien.
Si tout va bien pour qui ?
Je voulais simplement que vous sachiez que je tiens un dossier explosif et la vérité sur toute l'affaire Benoît Lambert.
Tous ceux qui fouillent dans cette affaire sont en danger.
Benoît Lambert a des amis puissants. Je ne veux pas qu'on étouffe l'affaire.
Je fouille.
Je trouve que vos questions deviennent de plus en plus personnelles, monsieur.
Madame.
Je vous dis que je n'ai pas suivi mon mari.
Qu'est-ce que vous cherchez maintenant, à salir sa vie privée? Eh bien, allez-y. Je m'appelle Laura Weber et je l'aimais profondément.
J'ai échappé de justesse à un attentat.
Je vais vous donner un vrai conseil d'ami. Laissez tomber cette affaire.
Vous rappelez-vous de cet homme? Avec qui vous avez dîné un soir?
C'est Michel Saint-Claude, un ami de Jacques.
Alors, monsieur Kerjean, vous vous intéressez toujours à l'Empire GPI, je vois.
1 milliard de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde pour un club de 30 personnes.
Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres.
C'était la bande-annonce de 1 milliards de dollars d'Henri Verneuil avec Patrick Devers, qui interprète le journaliste Paul Kerjean, d'après un ouvrage de Lawrence Mayer, False Front. Le festival Premier Plan s'est déroulé du 17 au 26 janvier à Angers. Au programme, de nombreuses rétrospectives qui ne pouvaient manquer de nous alerter pour des raisons d'affinité. Nous avons beaucoup hésité. il y avait Sicilia, avec un gros point d'exclamation. Autant dire que pour celui qui adore le polar sous toutes ses formes, on allait bouffer du parrain et de la mafia à toutes les sauces. D'ailleurs, les trois films de Coppola étaient au programme, tout comme Le Guépard de Visconti ou encore L'Aventura d'Antonioni. Antonioni, c'est quand même difficile à prononcer, c'est le nom de réalisateur italien. Antonioni. Des films qui mettaient particulièrement en relief la rétrospective de 15 longs métrages chargés de pointer une autre lumière sur la plus grande île de la mer Méditerranée. Et l'on se dit que c'est bien le drame de cette île que d'être aujourd'hui réduite à la Cosa Nostra. Mais la présence de Denis Robert pour Les Hommes du Désert, Les Hommes du Président, mon Dieu,
c'est beau,
Les Hommes du Président d'Alan J. Pakula, un film qui retrace l'affaire du Watergate avec Dustin Hoffman et Robert Redford, nous a convaincus de braquer notre regard sur la rétrospective Profession Reporter, intitulée ainsi en hommage au film éponyme d'Antonioni, encore lui. 22 films au programme, nous en avons sélectionné 3 dont nous débattrons plus tard. Et là, vous comprenez pourquoi je viens de vous passer la bande-annonce de 1000 milliards de dollars. Un film qui, il faut bien le dire, n'est pas dans la rétrospective. La profession de Devers est bien celle d'un journaliste d'investigation, un vrai de vrai, un gars qui a un instinct, une idée, et qui cherche à démêler quelque chose qu'il sent pointer, sans pour autant en avoir les tenants et les aboutissants. Mais un homme qui est aussi quelque peu manipulé par une source qui se cache derrière des lunettes de soleil et surtout devant une voiture garée dans un parking tout phare allumé. Il y a chez Kerjean cette rage de la recherche de la vérité qui a déjà détruit son couple et qui va ici menacer son propre enfant. Mais Kerjean est ou fou ou intègre. Le film révèle son lot de corruption financière et met le doigt sur la politisation de l'histoire. Ce qui est très intéressant. Surtout, il s'avère que si vous regardez à nouveau ce film aujourd'hui, vous découvrirez qu'il est hautement prophétique. Véritable film autour d'un reporter d'investigation, il se doit d'être sans cesse vu et revu. Mais nous allons continuer de parler journaliste avec Linda. Linda, de quoi tu vas nous parler ?
Alors oui, effectivement, moi aussi, je me suis activée les méninges sur la thématique profession reporter. La figure du journaliste, elle est assez commentée, voire secouée en ce moment. Dans la rétrospective du festival, on a globalement des films avec des journalistes engagés dans leur métier, qui prennent des risques et ont une haute idée de la vérité. Ceux-là sont plutôt populaires en général. Alors pourquoi les journalistes de BFM Télé, eux, ont besoin d'être protégés par des gardes du corps pour couvrir une manif ? Pourquoi, dans une moindre mesure, lorsque j'écoute le journal de 13h sur France Inter, je n'arrête pas de bondir et finis très souvent par couper la radio ? Exemple, il n'y a pas longtemps, j'écoutais donc les titres du 13h et je vous retranscris le premier. Mauvaise nouvelle pour les écologistes, forte augmentation de l'utilisation des pesticides en France pour l'année 2018. Est-ce à dire que les pesticides ne sont mauvais que pour les écologistes ? Non, ils ne se diffusent pas dans le sol et les nappes phréatiques, au contraire. Les pesticides guettent, détectent l'écolo, l'attaquent avec leurs molécules fourbes et cruelles. Non mais sans rire, Bruno. Peut-être qu'au vu des données scientifiques actuelles attestant de la dangerosité des pesticides, on pourrait se permettre d'avancer que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, sans pour autant être taxé de faire de la propagande.
Il me semble que les pesticides prennent exemple sur le nuage de Tchernobyl.
Oui, c'est ça, ça fait penser à ça. Ils détectent l'écolo. Et sinon, ben moi je me dis, il faut y aller franco, mon grand. Moi je te suggère, Bruno, plutôt, bande de cons qui croyaient que les pesticides, c'est des vilains pas beaux, vous allez avoir les boules parce qu'en 2018, les gentils agriculteurs qui se font gentiment conseiller par la FNSEA, ils en ont utilisé. Tout plein. Voilà, ce serait moins diffus comme info. Comment ça, je suis subjective ?
Tu es subjective et absolument pas littéraire.
Absolument pas. Bon, alors, hormis le fait que nous le soyons tous subjectifs, et pour cause, je ne saurais trop vous conseiller d'écouter sur le net des interviews de Marc Endeveld. Alors, il y en a une sur Le Média, par Denis Robert, justement, et une sur le site Thinkerview, entre autres. Marc Endeveld, c'est un journaliste qui a longuement enquêté sur Macron. Là, c'est sur... Il vient de sortir un bouquin. Là, c'est par rapport à son positionnement, justement. Pour lui, l'opinion politique d'un journal, c'est pas un problème. La neutralité invoquée par les médias mainstream n'existe pas. Elle masque une idéologie non affichée. Ce qui importe, c'est la capacité à critiquer avec honnêteté. Et après, nous de recouper, quoi. Mark Endevelt illustre parfaitement cette figure du journaliste intègre qui prend des risques, applique la fameuse règle de la diversité des sources pour recouper les informations trois fois, etc. Alors ça me fait penser, moi, à une discussion que j'ai eue avec mon beau-frère à Noël. Ouais, vous allez me dire, t'es gentil, tes histoires de famille, tout ça. Sauf que mon beau-frère, il est journaliste, quand même.
Il y a un lien.
Voilà. Et il me faisait part de son incompréhension quant à la levée de bouclier de sa profession contre l'idée d'un conseil de l'ordre des journalistes, un peu comme pour les médecins. Alors, pas question de faire un outil de censure étatique, évidemment, mais un contrôle avec des critères à respecter. Par exemple, en ce moment, on crie à la propagande contre RT France et y a rien qui se passe. Voilà, juste on crie. Donc ça pourrait permettre, justement, soit c'est autorisé, soit ça ne l'est pas.
Tu veux parler de Russia Today ?
Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Excuse-moi, j'ai dit RT. Donc voilà. Bon, alors sinon, moi, j'avais aussi un petit film à vous... un grand film à vous proposer, à vous conseiller, qui est sorti il y a quelques années, qui est disponible en DVD, qui n'est pas un film inconnu du tout. Hein. C'est un peu dans la même veine que Les Hommes du Président, c'est Spotlight, parce qu'il a quand même été Oscar.
Oscar, c'est avec Louis de Funès, tu te trompes.
C'est malin. Oscarisé en 2015, je crois, c'est 2015 ou 2016.
D'accord. Bref. Je sais pas, je l'ai tu pas sais vu. Pas,
ben voilà. Alors il me dit des bêtises, puis après, oui. Et je vous le conseille. C'est l'enquête du Boston Globe qui a été couronnée par le prix Pulitzer et qui a mis à jour un énorme scandale au sein de l'Église catholique. Ce qui est un peu déprimant, c'est qu'à la fin, ils nous disent que, aujourd'hui, par rapport à l'époque où il y a eu l'enquête, en fait, il y a deux fois moins de journalistes et deux fois moins de moyens. Voilà. Bon, mais sinon, c'est un bon film.
Eh bien, je pense que c'est le genre de journalisme d'investigation que l'on aime. Sinon, peut-être bien que les auditeurs verront le journalisme et le journaliste comme le chante le Canadien Jean-Pierre Ferland.
Beaucoup de mots, très peu d'humour. Moitié pinceau, moitié vautour. Tout dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Un jeu, ils ont autant d'élan moral. Ils ont de pages à leur journal. Ça fait du bien, ça fait du mal. Tout dépend de leur avantage. Ils vous habillent à leur façon. Vous prêtent des déclarations. Vous coupant deux ou trois tronçons. Ils vous tuent, puis ils vous encensent. Ils racontent tout ce qu'ils ont su d'un autre qui a bien connu, un autre qui a très bien vu. Quand ils n'ont rien su, ils inventent. Quand ils ont lu Tintin Brévet, quand ils ont écrit quatre vers, on les consacre reporters dans la mode ou la politique. Quand ils n'ont assez d'idées, on les met aux chiens écrasés. Quand il n'y en a plus, ils sont mutés. On les met aux grands dégrétis. As-tu vu mon papier tout frais? C'est presque du papier monnaie. Est-ce que tu connais Bossuet? Tout à fait moins la légende. C'est pas du moussi, du brutal. Et puis ça fera original. J'avais mal à mon piédestal. Quand on monte, lui, il faut descendre. Pour les comprendre, il faut les voir. Le moins souvent, mais certains soirs. Surtout quand ils jouent les plus soirs. Aux soirées des grandes premières. Le bras pendant les plus bons bouts. Le programme sur les genoux. Ils feignent de comprendre tout. Mais sans lui, comme au cimetière. Et leur critique terminée. Se corriger, mais en toute objectivité, comme s'ils avaient payé leur place. Et le lendemain au matin, vous la trouverez dans un coin, une à la deux, mais deux fois rien. Question de goût, question d'espace. Quand on sait tout,
rien, je sais peu, mais je le sais bien. J'ai appris dans un quotidien toutes les lois fondamentales. J'ai appris ce que je savais, que moins c'est faux, le plus c'est vrai, que plus c'est gros, plus c'est épais, que moins c'est blanc, le plus c'est sale. Quand vous écouterez ma chanson, ne sautez pas aux conclusions, sachez que vous faites exception et que gagner sa vie, c'est triste. Ne me mettez pas aux arrêts, gardez vos rages pour après, quand je n'aurai plus de succès. Quand je deviendrai journaliste.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM avec Calibre 58. Je me souviens avoir vu, il y a bien longtemps, Violence à Park Row de Samuel Fuller. Un film qui pose les jalons de la presse indépendante, parfois orientée, souvent malmenée, et qui aurait pu figurer dans la rétrospective, mais il faut faire des choix. Ça soulève les mêmes questions que celles dont tu viens de parler, en fait, sur le journalisme. Voilà, c'est, on est politique, mais on respecte quelque chose. On est partisan dans ses choix, mais on fait du journalisme intègre. Voilà, c'est ça. Luc, tu l'as vu ce film, Violence à Park Row, de Samuel Fuller ?
Non.
Ah, tu devrais.
Oui, je devrais faire plein de choses.
C'est un film qui permet surtout de mieux comprendre à quel point l'indépendance de la presse aux États-Unis a été importante dès l'écriture de la Constitution, puisque cette indépendance figure en toutes lettres dans le premier amendement, avant même le droit de porter des armes. Mais avouons-le, au risque de vous décevoir, la liberté de la presse est une utopie, même si Thomas Jefferson en était un coriace partisan. Max Stirner, philosophe et anarchiste, n'a-t-il pas écrit, je cite, « Une liberté de la presse n'est qu'un permis d'imprimer que me délivre l'État, et l'État ne permettra jamais, et il ne peut jamais librement permettre, que j'emploie la presse à l'anéantir. » Mais l'inconscient collectif a besoin d'un contre-pouvoir qui recherche la vérité. Alors là, on pourrait être en droit de demander « C'est quoi la vérité ?»
C'est quoi la vérité ?
Mais on ne va pas s'embêter aujourd'hui avec des questions philosophiques. D'autant plus que le plus grand reporter de fiction connu pour chercher cette vérité, reporter qui n'écrit jamais le moindre article, c'est, je vous le donne au mille...
C'est Tintin.
C'est Tintin. Et oui, le héros imaginé par Hergé n'est pas ce qu'on appelle un foudre de guerre philosophique. La morale actuelle, depuis près de 30 ans, le trouve même plutôt rétrograde. Pour un peu, il s'agirait d'un reporter conservateur. S'il n'avait pas eu pour référence littéraire, quelle est la référence littéraire de Tintin ? Je vous le demande là aussi en mille.
Je donne ma langue au chat.
Ah oui, pareil.
Albert Londres.
Ah. Oh, bah dis donc, sors de ce corps.
Oui.
Albert Londres, tu dois te retourner dans ta tombe.
Quoi qu'il y ait une évolution quand même entre le Congo et puis la fin. Mais bon.
Le reporter français.
Oui. Sinon, vous avez de l'extrait dans le chat du rabbin quand on voit Tintin. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Il y a une apparition de Tintin dans le chat du rabbin avec un accent belge et il sait tout sur tout et il a tout fait.
Eh bien, Albert Londres, ce reporter français, a d'ailleurs été brillamment adapté en bande dessinée par notre ami Gérard Berthelot, celui qui illustre La Tête en Noir et qui peut aussi s'attaquer à la figure de Raymond Coppa. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Albert Londres est la figure tutélaire d'un certain journalisme aventureux, engagé. Il a écrit sur le bagne, sur les opprimés, qui aujourd'hui a donné son nom à un prix qui récompense les meilleurs journalistes de l'Hexagone. Un qui ne l'a pas eu, ce prix, c'est bien Rouletabille. On n'a jamais vu aussi mauvais journaliste que le héros de Gaston Leroux, pire que Tintin. Lui, c'est bien simple, il n'en fait qu'à sa tête et il s'émancipe de toute éthique au point de devenir un véritable agent de propagande sous la plume de l'écrivain pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est bien le drame de ces journalistes en herbe. C'est qu'ils manquent cruellement de discernement et de recul. Sans compter qu'ils agissent avant d'écrire, quand ils écrivent. Bref, un drame, vous dis-je. Et j'en veux pour preuve la chanson que nous avons écoutée il y a quelques minutes. Alors, quid du journaliste d'investigation et de son aura ? En France, il n'a pas ses lettres de noblesse comme aux États-Unis, malgré Patrick Devers. Mais l'arrivée de la non-fiction sur les rayons des librairies va peut-être lui donner une certaine amplitude. Les éditions Globe, entre autres, s'en sont fait une spécialité. Et il faudra bien y revenir à quelques moments de la saison. Pour l'heure, place à notre débat profession reporter. On écoute les hommes du président de Pakoula.
Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1. Hold it, you mother! Hold it! Police!
There's been a break-in at Democratic headquarters, and they were bugging the place.
Woodward, Bernstein, you're both on the story now. Don't fuck it up.
Redford.
I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary?
I'm not here.
Hoffman.
Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember...
All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
White House.
Howard Hunt, please.
He might be in Mr. Colson's office.
Who's Charles Colson?
Did you know, Howard Hunt?
Well, the White House said he was doing some investigative work.
What do you say?
They stumbled into leads.
Certainly it comes as no surprise to you that Howard was with the CIA.
No surprise at all.
They tripped over clues.
We'd like to see all the material requested by the White House.
All White House transactions are confidential.
This whole thing is a cover-up. It's right on our nose.
And piece by piece, they solve the greatest detective story in American history.
There is no way the White House can control the investigation.
I don't want to say anymore, okay?
Have you been threatened if you tell the truth?
Is there a cover-up?
Don't you understand what you're on to?
Mitchell knew?
Of course Mitchell knew.
Woodward! Bernstein! Get in here!
At times, it looked as if it might cost them their jobs.
You guys are about to write a story that says the former attorney general, the highest-ranking law enforcement officer in this country, is a crook.
Their reputations.
Why is the Post trying to do it? I don't know.
Perhaps even their lives.
Vous écoutez Calibre 58 sur Radio G au 101.5 FM. Et maintenant, un petit aperçu critique de la rétrospective Profession Reporter avec trois films très différents. Tout d'abord, film numéro 1, La Dame du Vendredi de Howard Hawks. Luc, alors, comme c'est toi qui vas t'y coller...
La Dame du Vendredi, donc on fait tout, on résume, hein, bien entendu. Donc Walter Burns, c'est Cary Grant, directeur d'un quotidien, veut récupérer son ex-femme, journaliste, c'est la magnifique Rosalind Russell, et utilise tous les moyens, y compris l'envoyer, interviewer un condamné à mort. Voilà, ça c'est le résumé, c'est la comédie dans le plus pur style d'Hollywood.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, Toups ?
Y a un sacré tempo. Ça va très, très vite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation, mais ça joue très, très bien. Ça joue vraiment très, très bien. J'ai trouvé dommage qu'il lance trop de pistes et puis à la fin, il se retrouve obligé de finir. Donc, il fait une fin. Et malheureusement, il fait la fin qu'on avait prévue dès le début. Mais
pourquoi qu'on avait prévu dès le début ?
Ah oui.
C'est une comédie. Pas... Après, on n'est pas là pour. Elle n'est pas là vraiment pour surprendre.
Certes, mais avec un tout petit peu moins de pistes dansées à gauche, à droite. Bon, mais sinon, ça m'a. J'ai beaucoup ri.
Linda.
J'ai pas grand chose à dire, ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense que Luc sera plus intéressant que moi là-dessus.
Oh.
Mais je. Oui, voilà, c'est pas négatif du tout, hein, mais là, je me sens pas pertinente pour le coup.
Bah, Moi, je trouve qu'il n'y a pas de... Avant de passer à Paul-Luc, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, en effet, à la fin. Mais il faut bien dire aussi, quand même, que la journaliste en question s'est trouvée un futur mari qui répond aux attentes qu'elle a dans la vie, mais qu'il a une tête de grand bonnet. Et qu'en face, quand même, même s'il est chiant, même s'il est énervant, même s'il part dans tous les sens, c'est Cary Grant. Et donc, dans la comédie, il me paraît normal qu'après, elle revienne dans les bras de Cary Grant. Mais voilà. Luc, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, sur le journalisme ? Pas grand-chose.
Bah, ça, déjà, ça confirme l'image qui est présentée tellement de fois du journalisme, c'est-à-dire... opportuniste, courant après le scoop. Voilà. Donc, pour moi, ce film, donc, plusieurs qualités. D'abord, sa durée, il est très court, ça c'est bien. La copie est restaurée, elle est superbement magnifique, ça c'est extraordinaire. Cary Grant joue bien, irréprochable. Rosalind Russell joue bien, irréprochable. Et, mais, il y a un mais. Et le mais, pour moi, c'est que c'est un film qui se veut drôle. Mais moi, j'ai été mal à l'aise en le regardant parce que je l'ai regardé avec les yeux d'un spectateur des années 2020. Et tout d'un coup, on se rend compte que Cary Grant, il est détestable et malsain. Dans son désir de retrouver sa femme, il est manipulateur. Elle essaye de s'en émanciper. Elle y met vraiment beaucoup de volonté. Et elle voit bien que le personnage, c'est un personnage hâbleur. Mais c'est une femme, que voulez-vous ? Et elle retourne dans ses bras. Et l'image de la femme, au travers de tout ça, elle est, somme toute, assez désagréable. Donc moi, j'aurais préféré voir un Buster Keaton. J'aurais préféré voir Laurel Hardy, parce que dans l'humour, il est là, et puis on y va. Là, moi, j'étais en fait, assez... J'étais mal à l'aise quoi, en fait, en voyant ce film.
Il y a quand même plein de passages où elle est la femme indépendante en but au journaliste macho.
Tout à fait. Oui.
Ça c'est présent. On peut le remarquer. Après, l'amour est aveugle.
Non, il est enfant de bohème.
Il est enfant. Deux, il est enfant de bohème. Trois, il est dans le pré, sûrement. Si on doit continuer comme ça. Toops, qu'est-ce que tu voulais dire ?
J'ai bien réussi, contrairement à Luc, à voir les yeux de 1940 pour passer outre effectivement ces petits côtés détestables sur la conclusion qu'on peut avoir sur... le regard qu'il a sur la condition féminine et fais ce que tu veux, femme, mais finalement, reste là où on t'a dit d'être.
Mmh. Oui, sachant que son rêve à elle, c'est quand même d'être une femme au foyer, obéissante, et qui fait des gosses et qui dépend de son mari.
Et que c'est pour ça qu'elle quitte le milieu du journalisme. C'est une théorie tellement improbable quand on voit le type de femme que c'est et quand on voit le type de mari qu'elle s'est choisi. On se dit, mais ça, c'est le pitch. Et pourquoi pas ? C'est assez intéressant de voir comment Cary Grant...
C'est pas James Stewart, c'est Cary Grant.
C'est pas James Mason.
Ouais, on
plus.
Peut les confondre.
Oui, je les confonds régulièrement.
James Grant et Cary Stewart sont...
Charles Bronson.
Ah oui, Charles Bronson aussi. Moi,
Et on revient au sujet, s'il vous plaît.
Non, mais juste pour conclure, on dira qu'il y a des scènes de vaudeville qui sont quand même assez hallucinantes. Évidemment que c'était une comédie comme ils en faisaient 200 à l'année. Ce qu'on retient, c'est un scénario qui est quand même bien ficelé. Il y a des dialogues qui sont quand même jouissifs.
Je ne sais pas s'ils en faisaient 200 de cette qualité à l'année.
Non, pas 200 de cette qualité. Cary Grant ne faisait pas 200 films déjà. Donc, comme Luc avait dit, Cary Grant est irréprochable.
Si Luc a dit.
On passe à la suite.
Et la suite, ça s'intitule Le chat à neuf queues de Dario Argento. On quitte la comédie pour aller dans le giallo. Donc ce film noir italien, Luc.
Je suis devenu spécialiste speech. Deux journalistes, Carlo Giordano, qui est joué par James Franciscus, on adore les noms des comédiens italiens, et Franco Arno, qui est quand même joué par l'immense Karl Malden, enquête sur un meurtre dans un centre de recherche biologique. Voilà. Et puis après, c'est Dario Argento. Donc, moi, je parlerai plutôt que de films noirs, je parlerai de Grand Guignol. Voilà, mais c'est parce que c'est Dario Argento. Et puis, ce n'est pas tant un film de journaliste qu'une enquête policière.
Oui, mais est-ce que le journalisme d'investigation, ça ne s'apparente pas à l'enquête policière? Ça, on pourrait se poser la question. Je rajouterai à ce que tu viens de dire qu'un des enquêteurs a la particularité d'être aveugle, ce qui fait que, dès le début, alors qu'il est prédateur de la vérité, on sait que cette faiblesse va être retournée contre lui à un moment donné. Et en plus, il est accompagné d'une petite fille qui là devient la faiblesse extrême. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle va se faire enlever, on le sait dès le début, on le comprend. Voilà. Un avis, les amis, Linda, peut-être
Alors, oui, alors, moi, je ne connaissais pas ce genre de style. Pourquoi tu ris?
Non, mais c'est... Non, mais ça peut surprendre. Hein.
Ah oui, j'ai trouvé ça très étonnant. Mais du coup, ça m'a intéressée parce que j'étais en pleine découverte, quoi. Je dis, waouh, c'est quoi l'habillage sonore, incroyable.
Habillage sonore de
Ennio Morricone.
Ennio Morricone,
oui, et c'est magnifique, magnifique.
Je crois que Toubs va nous en parler un peu plus tard.
Je crois aussi, mais je voudrais pas dévoiler.
Non, pas de cliffhanger.
Mais non. Voilà, et puis effectivement, ce jeu avec des gros plans qui se veulent inquiétants. Alors, ça a peut-être un peu vieilli, les gros plans sur les iris, etc. Mais
ça reste bien fait, il n'y en a pas trop.
Ce que j'ai trouvé. Quelque part, moi, l'intrigue, c'est pas que je m'en fichais, mais j'étais portée par l'image, par le son, surtout. Et la symbiose entre les deux plus que par l'histoire, effectivement j'ai pas trop vu venir, mais est-ce que j'ai vraiment cherché à voir venir la résolution, je sais pas, mais j'ai trouvé ça intéressant à regarder. Enfin, c'est bizarre hein, parce qu'en général je parle plutôt d'émotions, de ressentis, de choses comme ça, mais là j'ai trouvé ça vraiment intéressant à regarder.
Moi j'ai trouvé ça vraiment génial en fait, avec tous les côtés vieillis, pas si bien vieillis que ça. Malgré ça, j'ai trouvé ça juste génial.
Oui, parce que ça date de 1971 quand même. Voilà.
Mais effectivement, cet environnement sonore et qui est là pour restituer la peur et l'appréhension qu'on a en tant que spectateur de voir que cette personne aveugle va être traquée par la mort. C'est superbement bien fait, ça tient tout le film et le scénario est bien pour tenir l'autre partie et ça joue bien aussi. Ça nous mène un peu en bateau. Il y a une scène fabuleuse dans le caveau.
Oui, qui est une scène très gothique en fait.
Une scène où le journaliste se retrouve enfermé dans le caveau et où il commence à se demander s'il n'est pas mourir. Dans le caveau, et puis je ne vais pas dire ce qui se passe après parce que c'est un passage extraordinaire.
Oui, c'est un passage extraordinaire, mais on sait qu'il va sortir, sinon il n'y a plus de film. Et comme c'est un film qui dure à peu près 2 heures, il reste encore, je crois, une demi-heure à ce moment-là.
Oui, je peux le dire, j'ai regardé ma montre à ce moment-là.
Mais
ouais, c'est un peu long.
Alors, moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'est qu'il y a une thématique qui reflète les peurs de l'époque, un peu comme en 4e vitesse d'Aldrich. Où il y a, dans 4e vitesse d'Aldrich, c'est le nucléaire, c'est une valise qui contient des choses qui sont radioactives. Et puis donc on découvre. Là, c'est la biologie, la bioéthique, le fameux gène de la violence qu'on peut avoir chez les individus, comme si les individus en fait étaient déterminés à être violents. À un moment donné.
Écoute, ce film a 40 ans et il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un président parlait de choses peu équivalentes. Hein.
Mais il était porteur de ce gène, je crois. Mais voilà.
Il faut noter deux scènes quand même qui sont éblouissantes dans le film. C'est la scène d'amour où on voit deux visages statiques, c'est tout. Et dernier plan de cette scène d'amour, c'est du lait qui coule sur une table. Et la scène finale que même John McTiernan n'aurait jamais osé proposer à Bruce Willis. Mais je ne je spoilerai pas, mais la scène finale, enfin le dernier plan, en fait, est quand même assez... bref, la scène de résolution. Voilà.
Et surtout un antagonisme italien qui transpire à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez vu la traduction de Comme un plouc.
Non.
Como un Milano.
Donc, bah oui, c'est ce que je me disais aussi.
qui veut tout dire. On quitte le giallo, on va aller vers un film donc à l'américaine, journalisme d'investigation.
De Jalanji Jakula.
Non, Alanji Pakula. Mais tu dis n'importe quoi. Il s'agit des hommes du président avec deux petits acteurs, enfin un petit et un grand acteur. Le petit, c'est Dustin Hoffman. Le grand, c'est Robert Redford, surtout quand on les voit côte à côte. Alors, Luc.
Ah bon, alors je le refais. Donc, bien, Walter Burns. Hop là, je me trompe dans mes notes. Faut-il rappeler le thème du film ? Est-ce bien nécessaire ? L'affaire du Watergate, révélée par le Washington Post par deux journalistes, Bob Woodward, qui est joué par Robert Redford, et Carl Bernstein, qui est joué par Dustin Hoffman, et qui, cette affaire a conduit, cette enquête, du moins, a conduit à la démission de Richard Nixon. Voilà.
Ce sont donc les deux journalistes Woodstein.
Comme dit le directeur du journal.
Le directeur. Alors moi, je dirais simplement que j'avais gardé un bon souvenir de ce film. Je l'ai vu, j'en ai un moins bon souvenir maintenant. Ne serait-ce que parce que ça me paraît assez décousu dans la procédure, avec des noms qui apparaissent à certains moments, tu ne sais pas trop d'où ils sont tirés, et surtout cette accumulation. Voilà. Et puis c'est un peu lent. Un avis, Linda ?
Ouais, c'est un peu lent. Ces deux comédiens que je me suis réjouie à voir jeunes comme ça. J'ai trouvé ça.
Mais oui, ils ont été jeunes. Hein.
Oui, c'est ça, quoi. Ils ont été jeunes. C'est incroyable. Moi, ça m'a réjoui. Je suis désolée, juste ça. Puis après, bon, l'histoire, après, c'est toujours le côté ambivalent. C'est comme Spotlight où on est à la fois dans le film, et en même temps toute la résonance du pour de vrai, entre guillemets, quoi. On n'arrête pas de faire des allers-retours entre les deux, parce que c'est vraiment ces deux journalistes qui ont écrit le roman à partir duquel a été tiré le film. Donc j'ai toujours du mal à avoir vraiment juste à me laisser embarquer dans la fiction, parce que c'est pas vraiment de la fiction. Oui, il y a peut-être des trucs un peu... on va dire que j'étais bonne spectatrice sur le coup, et que j'avoue, d'ailleurs, on a regardé ensemble et je vous ai dit, on a fait pause. J'ai dit, mais pourquoi il dit ça là ? On n'en a jamais parlé, c'est moi qui n'ai pas suivi, etc. Effectivement, il y a des moments, d'un seul coup, il y a des choses qui débarquent, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Bon, c'est un peu, faut se tenir au jus pour tous les noms. Mais malgré tout ça, je trouve que c'est quand même juste édifiant, quoi.
Oui, c'est possible que. C'est pas impossible que ces noms qui débarquent d'un seul coup, soit le résultat de coupures au montage parce qu'il devait y avoir trop de matière. Quand il y a un bouquin comme ça à retranscrire en film, au bout d'un moment, t'as trop d'images et t'es obligé de tailler dans le gras.
Ouais, enfin, t'as un scénariste pour ça.
Oui, tu peux tailler en amont.
Il est censé tailler avant qu'on filme, sinon tu perds du fric.
Mais bon.
Ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, malgré ses longueurs. Il y a des longueurs. J'ai regardé ça un peu comme on regarderait un documentaire sur comment ça se passait à l'époque. Donc 40 et quelques années plus tôt, comment on travaillait dans une salle de rédaction déjà.
Avec des machines à coudre, des machines à écrire Olympia.
J'adore le lapsus, mais c'est vraiment ça. Hein.
Et oui, parce qu'il faut les c'est du cousu main qu'ils font. Et c'est vraiment... avec les open space qu'on a vu débarquer en France 40 ans après, ou 30, tu te demandes comment ils font pour travailler là-dedans, quoi. Et dans un boucan pareil. Et en même temps, il y a un esprit d'équipe. Les conférences de rédaction sont à très peu pour décider de tout ce que font tous ces journalistes. C'est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue sociologique. J'ai trouvé ça intéressant au niveau de l'histoire aussi. Bon, l'histoire n'est pas... Mais comment ça se passe ? Et ça m'a fait penser encore à ce film Les Trois Jours du Condor.
qui a été cité hier soir à la présentation par Serge Joly.
Donc c'est pas oui.
Donc tu es tout à fait pertinent.
Peut-être, je sais pas si lui il est encore hein, ce brave monsieur Joly.
Osons le dire, il est un peu âgé.
Je lui en veux pas. Il a fait beaucoup à une époque.
Mais c'est vrai que ce qui est assez notable, c'est le courage en fait de la rédaction.
Oui, mais
enfin... c'est pas le. Enfin, moi, je suis pas d'accord. C'est pas le courage de la rédaction. Dans le film, il y a un truc qui transpire qu'on voit, c'est la pluralité des médias ou des journaux incite des journalistes à enquêter parce que quelque part, il faut se démarquer des autres. Et c'est parce qu'ils sont ils continuent parce qu'il y a que 5 journalistes sur 1500 qui parlent du Watergate. En fait, c'est que ça. Hein. C'est
Ah ben non, bah, attends, on n'a pas compris même chose.
Non, hein. On parle de courage. Quand elle dit courage, je pense que c'est parce que, justement, ils savent qu'il n'y a que 5 journalistes qui enquêtent sur le Watergate et que ça pue et que c'est extrêmement dangereux. Et que qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Si, parce qu'à un moment donné, il dit bien, si on est tout seul à le faire, est-ce qu'on lâche pas l'affaire, quoi?
Oui, non,
parce que peut-être que c'est faux, qu'on n'y est pas.
Non, ce que je dis, c'est qu'eux, ils se posent la question. Mais leur rédacteur en chef, lui, son intérêt, c'est de vendre du papier.
Et donc,
il veut vendre du papier. Donc, si l'histoire, elle tient la route, il va la publier et il va se démarquer des autres. Moi, c'est ce que je pense.
Je ne l'ai pas senti en vendeur de papier, moi,
c'est rédacteur. Moi non plus, pas du tout.
Oh, si, quand même un peu, hein.
Le départ, mais pas sur la suite.
Au début, il dit allez les gars, ça, on plie l'affaire, quoi. Enfin, oui. Vous m'emmerdez avec cette affaire-là.
Mais, je suis d'accord avec toi, mais sur la suite.
Parce qu'ils n'ont rien dans leur papier.
Oui, oui.
Ils n'ont que des suppositions.
Ouais, c'est ça. Ils les poussent à recouper.
Il leur dit mais bossez, présentez-moi des vrais papiers, parce que là, je publie pas ça, c'est pas possible.
Ouais. Mais là, on est en train de parler de l'histoire, et après, il faut parler du film. Ah. Et donc, le film. Malgré tout, c'est important. D'abord, c'est malgré tout un film qui est à la gloire de Robert Redford.
Voilà. Ah, il est producteur. Donc,
il est producteur. Donc, voilà, ça, c'est déjà un point important. C'est un film qui nous montre, comme tout le temps avec les Américains, les grandes vertus de la presse américaine et qui glorifie la ténacité des journalistes.
Oui, enfin, tu dis comme tout le temps, mais aujourd'hui, c'est plus possible, ça.
Mais le film qui vient de sortir avec... Papers, j'ai oublié le nom.
Panama Papers ?
Non.
Pentagon
Papers, c'est la même chose.
Ah bon ?
Bah oui. C'est une salle de rédaction, des journalistes qui se battent pour publier un article. On a déjà vu ces films. Il manque plus à la fin que retentisse le Star Spangled Banner et on serait dans un monde parfait. Et ça, moi, je trouve que le film, il a vieilli et c'est...
Moi, je trouve qu'il...
Écoute, je dis, il y a 40 ans, on pouvait encore y croire au pouvoir de la presse parce qu'elle appartenait pas encore à des milliardaires.
Oui. Alors, il a une qualité. Il a été tourné en 76, 4 ans après les événements, après l'affaire du Watergate. À la même époque, il y a une même histoire qui se passe en France, qui est les micros du Canard Enchaîné. C'est en 73. La DSTI pose des micros. On attend toujours le film qui sera fait sur les micros posés au Canard Enchaîné.
Comme on attend toujours notre littérature sur la guerre d'Algérie, alors que les Américains ont une littérature sur la guerre du Vietnam et la guerre de Corée.
C'est QFD.
Moi, ce qui m'a surtout marqué dans ce film, c'est un truc ahurissant, c'est-à-dire que c'est des journalistes qui enquêtent sur des mecs qui ont posé des écoutes dans une maison et qui ne se disent à aucun moment on peut être sur écoute. Oui. Alors ça, je trouve ça vraiment formidable. Et ils le découvrent qu'à la fin qu'ils sont sur écoute. Oui. Après, voilà. Cela dit, parce que Linda fait.
Ça passe pas au micro.
Je suis trop visuelle.
Non, moi, le film il tient évidemment par le duo. Voilà.
Par Rothstein.
Par Rothstein et surtout. Ce sont deux acteurs qui sont extraordinaires.
Oui, c'est pour ça. Alors moi, je parlais vraiment du film. En fait, j'ai pas trop suivi le décortiquer l'affaire en elle-même. Certainement, ils ont romancé, ils ont arrangé les choses. Hein, il n'y a pas de souci.
Et puis, il marche quand même aussi parce que on sait qu'il est coupable. Et on sait qu'il va se faire prendre.
Oui.
Et on sait qu'il fait tout pour ne pas se faire prendre. Oui. Et ça, c'est le but du...
Donc, tu connaissais la fin avant
donc,
toi.
Oui,
donc on peut dire la fin. On peut spoiler tranquillement. On peut divulguer.
Ouais. Voilà. Je crois qu'on va clôturer ce petit aperçu des films qui étaient dans la rétrospective, sachant qu'il y en avait 22 et qu'on n'a pas, nous tous, pu les voir. Et on va passer au jazz, quelque part. Toops. Comment ça jazz?
Mais ça jazz plutôt sérieux et quasiment contemporain. Mais d'abord, j'ai quelques chiffres autour de l'homme mystère dont je vais parler.
L'homme mystère.
Qui est cet homme mystère? Écoutez ça. 70 millions d'albums vendus.
John Williams.
70 millions d'albums vendus. Alors, je vous dis tout de suite, hein, Michael Jackson, c'est 350 millions.
Oui. Donc, il jouait petit bras, ce musicien. Hein.
Madonna, 300. Les Beatles, 600. Elvis Presley, 600. Selon le livre des Guinness des records.
D'accord.
Mais là, on n'est pas en train de parler de chansons. On parle de musique, de film.
John Williams.
On parle de quelqu'un qui a composé la musique de plus de 500 films et programmes télévisés.
Et c'est pour ça que je disais John Williams, mais bon, a priori, c'est pas ça.
C'est pas, non, alors là, c'est pas John Williams. C'est
non,
pas
mais on lui a foiré sa surprise tout à l'heure déjà.
C'est pas non plus. Oui, mais les gens, ils ont eu le temps d'oublier.
Ah, pardon. John Williams ?
On parle de musique de film et de tubes. Et de tubes, bien souvent instrumentaux, même si du coup, on peut parler d'instrumentalisation du cri du coyote.
Mais de quoi tu parles?
Bon sang, mais c'est bien sûr le petit père Ennio.
Le cri du coyote.
Oui, mais tu vas nous le dire, alors fais pas.
T'es charade à tiroir, Toops, quand même.
Non, bah alors, c'est d'abord annoncé par une flûte et puis on entend le cri du coyote après. Un coyote harmonisé.
Ah, c'est un western spaghetti. Hein. Ouais.
Oui, et ça fait comment?
Du.
Ah, tu vois que tu savais.
Oui, mais moi, je chante bien que sous ma douche.
Ou sous la torture. Autre chiffre, 91 printemps au compteur. Oscar d'honneur en 2007 pour l'ensemble de sa carrière.
C'est bien d'avoir survécu 13 ans à un Oscar d'honneur.
Oscar tout court, après 6 nominations en 2015. À l'âge de 87 ans, ce monsieur a réussi à attraper son Oscar pour la bande originale du film Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Tarantino, grand fan de ses compositions qu'il réutilisait souvent pour ses propres films. Alors ça, déjà, c'est pire qu'un scoop parce que Tarantino ne voulait jamais travailler avec un compositeur vivant. Il disait que c'était emmerdant et qu'il préférait donc utiliser des musiques qui avaient déjà servi, qui étaient libres de droit et dont il pouvait se servir comme il voulait.
C'est parce qu'il est radin, c'est tout.
Oui, c'est... Alors, vous pensez ce que vous voulez de Tarantino. Moi, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, hors micro.
Over the record.
Donc, on parle de quelqu'un qui est revenu au western 40 ans après avoir fait son dernier western avec les 8 salopards de Tarantino. Donc, allez, je vous le dis, nom, c'est Ennio Morricone. Oui.
Comme ils disent dans le Western Spaghetti Orchestra, Ennio Morricone.
Eh oui,
Morricone. D'où le lien avec le film de tout à l'heure.
Il est trompettiste de formation. Ce qui ne lui ouvrait pas les portes tout grandes, les portes de la classe de composition dans les années 30, parce que 40, parce qu'il est né en 28. Et un trompettiste devait faire de la trompette, et la composition, c'était pour les instruments qui avaient la vision globale de la musique. Donc le piano, éventuellement la guitare, la harpe, et puis voilà. Alors...
Mais il a fait des choses surprenantes, Ennio Morricone.
Il a fait des choses étonnantes et il a pas cessé de faire le grand écart pour rassembler la grande musique et la musique populaire. En tout cas, la grande musique et le grand public. J'avais envie de dire, pour rappel comme ça en passant, qu'il y a un violoniste qui s'appelle André Rieu. Quand il joue en Italie, c'est pas dans des opéras, il joue sur des places publiques. Et le public tout entier chante avec lui les musiques de l'opéra ou du répertoire italien qu'il a l'intelligence d'interpréter. Parce que, voilà, il fait de la musique populaire avec la musique classique. Et c'est un peu ce qu'a essayé de faire Ennio Morricone.
En mieux, je trouve.
Et qu'il a réussi parce que lui, il a fait des créations avec des influences de musique classique. Et sans s'en cacher, hein, il a abondamment cherché du côté de Bach, entre autres. Il a fait quelques parenthèses du côté de la chanson, notamment avec Mireille Mathieu. Si.
André Rieu, Mireille Mathieu, que du bon tout ça. Hein.
Oui, enfin.
Avec John Baez aussi, non?
Avec John Baez, oui. Pour la musique de Sacco e Vanzetti.
C'est ça, Here's to You.
Here's to You, Nicola Sandbart. Oui, Sacco e Vanzetti, qui était pire que des rouges, hein, c'était des anarchistes. Donc c'était des coupables idéaux. Compositeur de bande originale, auteur de musique pour Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Dario Argento, Marco Bellocchio, et puis ça c'était pour l'Italie. Le reste, c'est une carrière internationale qui a duré donc...
Qui n'est pas finie.
Ben oui, plus de 70 ans de carrière, c'est pas mal.
Eh bien, merci Toups pour cette petite biographie enjouée de Ennio Morricone. Vous écoutez toujours Radio G sur le 101.5 FM, Calibre 58.
Oui, Calibre 58 était donc au Festival Premier Plan la semaine dernière et j'ai eu la chance de rencontrer Denis Robert. Il était là pour son film documentaire « Ennemi public » et pour présenter « Les hommes du président Dalangi Pakula ». Justement, je vous propose de l'écouter tout de suite et je vous raconterai ce que nous nous sommes dit après la projection dans la prochaine émission.
Et c'est le film de Pakula, les hommes du président. Quand on m'a demandé de venir ici, j'ai immédiatement pensé à ça. J'ai hésité avec un autre film qui est celui de Michael Mann, qui s'appelle Révélation, qui d'ailleurs, quand j'avais vu Michael Mann, j'ai appelé mon premier livre sur Kirsten Révélation à cause du film de Michael Mann. Mais là, vous avez beaucoup de chance si vous n'avez jamais vu les hommes du président, parce que tous les journalistes de ma génération et sans doute les journalistes plus jeunes ont eu envie d'être de voir des Bernstein. C'est vraiment l'histoire idéale parce qu'elle met en jeu deux journalistes du Washington Post qui vont faire démissionner à Richard Nixon, le président des États-Unis. Ça a pu fonctionner parce que c'était une démocratie avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Le film est vraiment le prolongement de l'enquête des journalistes, c'est-à-dire que le film magnifie le travail de ces deux journalistes qui étaient très jeunes à l'époque, et celui qui a vraiment voulu que ce film existe, c'est Robert Redford, qui était super célèbre à l'époque. Et c'est lui qui a demandé à Bernstein et Woodward d'écrire ensuite le livre qui est formidable, que j'ai lu avec passion aussi, qui s'appelle « Les hommes du président ». Et c'est ce livre qui est une sorte de où il raconte le making-of de leur enquête. Je vous invite, si vous aimez le film, à lire le livre qu'on doit trouver en poche assez facilement. C'est vraiment le rêve de tout journaliste parce que il y a un informateur, on prend des risques, c'est une bagarre, c'est un travail au long cours. Et à plusieurs reprises, dans mon travail de journaliste à Libération, comme plus tard pour mes livres, j'avais l'impression d'être un tout petit peu sur leur trace. Parce que dans les grosses enquêtes ou des gros scoops, quand on en sort, il y a toujours une gorge profonde. Dans le film, elle s'appelle Gorge Profonde parce qu'il y avait un film porno à l'époque qui s'appelait Gorge Profonde, si vous voyez ce que je veux dire. Et à l'époque. Et on sait depuis très peu de temps, c'est-à-dire, je pense, il y a 2-3 ans, un vieux monsieur devait avoir 95 ou 90, 18 ans, je ne sais pas. Il a avoué que c'était lui, la gorge profonde des deux journalistes. Et ce monsieur, en fait, était le numéro 2 du FBI. Et on sait aujourd'hui, j'ai oublié son nom, mais si vous allez sur Internet, vous allez trouver ça. Alors, c'est vraiment un film, c'est zéro défaut, quoi. Enfin, quand on le voit, on est complètement avec les deux personnages. Donc les deux comédiens sont Redford et le second c'est Dustin Hoffman. Je confonds toujours, parce que je pense toujours que c'est Al Pacino, mais en fait c'est Dustin Hoffman, on les confond souvent, mais c'est vrai que Redford avait voulu que ce soit Pacino qui joue le second journaliste, parce que en fait Dustin Hoffman était beaucoup plus politisé à l'époque, et il avait lui aussi envie d'adapter de raconter l'histoire, quoi. Donc j'espère que dans la salle, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens, que comme moi, vous aurez envie de faire du journalisme en voyant ce film. Et c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de faire du journalisme que ça ne l'était il y a quelques années quand j'ai voulu en faire moi. Donc voilà, je vous dis bonne projection, bon film, vous avez beaucoup de chance. Merci beaucoup.
Quelques brèves. Deux revues estampillées bande dessinée proposent un focus sur le western cher à Linda. Dans son numéro 10, les cahiers de la BD posent la question « Pourquoi le western est-il indémodable ?»
Oui, pourquoi ?
Historia BD y répond quelque peu avec cette accroche « Lucky Luke, le Far West du crime et de la justice ». L'occasion pour moi de vous parler de la sortie d'un nouvel album des aventures du lieutenant Blueberry, Amertume Apache, chez Dargo, avec au dessin Christophe Blin, auquel s'ajoute au scénario Johan Sfar. L'histoire est un diptyque qui ne révolutionnera pas le genre, mais il est question de vengeance, de sexe et de trahison. Surtout, le dessin de Blin s'émancipe de ses prédécesseurs, ce qui n'était pas chose aisée. Et puisqu'on cause western, Sidonis sort dans sa collection western de légende El Perdido de Henry Hathaway, avec Rock Hudson et Kirk Douglas, mais aussi L'attaque de la malle-poste, du Kirk. Même réalisateur, mais avec Tyrone Power. Et, Linda, ça va te plaire, ça, Willy Boy de Abraham Polonsky, pas Polonsky, Polonsky, avec Robert Redford.
Non, mais moi, je suis plus Kirk que Robert.
Hein, d'accord. Mais en plus,
les fossettes.
Et oui, et puis il y en a un qui est encore vivant, Kirk Douglas.
Oui, 103, c'est ça. J'ai mes chances, il a que 100 ans.
Mais Robert aussi, non ?
Oui, c'est, j'allais dire une bêtise. Et donc, merci, Toups, de me faire remarquer que j'allais dire une bêtise.
Tu voulais dire que Kirk était encore vert.
Il est encore vert, Kirk. Luc, quelques mots sur un film qui t'a particulièrement marqué ?
Ben oui, j'ai la chance de pouvoir faire le festival. Et oui, il faut parler d'un film important qui est dans la sélection officielle, qui est un film de la sélection, donc la programmation des films français. C'est un film qui s'appelle « Des hommes » de Alice Audio et de Jean-Robert Vialet, tous deux qui ont été récompensés d'ailleurs pour d'autres travaux par le prix Albert Londres. « Des hommes », c'est un film qui est tourné au Baumettes. Les deux réalisateurs ont eu la possibilité de passer 25 jours à filmer. C'est un film, il n'y a pas de commentaires, il n'y a que des images. C'est d'une violence sans nom. On ne dort pas après avoir vu un film comme ça. C'est d'une humanité magnifique. Je vous recommande ce film. Enfin, pour moi, c'est le film que j'attendais sur la prison depuis très très longtemps. Ça se passe au Baumettes et je peux vous dire, c'est du cru.
Eh bien, on se précipitera dans les salles de cinéma, peut-être pas au Baumettes directement.
Non, il sort au mois de février.
Il sort au mois de février. On vous dit à dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est nos amis imaginaires. Et maintenant, c'est l'heure des coquines caresses métalliques. Au revoir, les amis, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Tardes, noches.
Hasta la
vista.
Radio G 101.5 FM.
Yo, what the? Let's fuck around with some of that old feel good gangsta shit. Been out before 20 fucking years. Whole lot of fucking blood, sweat, and tears. Who cares? They don't give a fuck.
On the mark, I'm taking no prisoners.
Check me out now, yo, yo. So what, I'm on the up and coming in the time. So what, I'm in the for the cash, money and the fine. So what, I'm better than you and it's fucking up your brain. Yo, Landy versus the shit up in this bitch.
But out for 20 years, never made a sink. Bought the money from my mom to pay the rent. Now I'm gonna get out of this mess. Yolanda shows me two straps on the fucking bus desk. Broke ass ninja gonna be your daddy. Little baby ninja gonna need some nappies. Gave up my best shot, never play a stop. Thank God he moved the fucking on to it when it pop.
Got a million fucking dollars in the bank. Then I converted all my dollars into rents.
Radio G 101.5 FM.